et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Blandine Lehoux, humoriste de métier et maman de deux enfants en bas âge. Avec Blandine, pas de chichi. Nous sommes tout de suite entrés dans le vif du sujet de la parentalité, dans l'intime, dans le vrai, sans tabou ni complexe, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle l'envisage, aussi bien sur scène que dans la vraie vie. Sa vie de femme, puis de mère, Blandine la met en scène dans « La vie de ta mère », son spectacle aussi hilarant que criant de vérité, actuellement en tournée dans toute la France. Tu l'as peut-être noté, je n'emploie pas mes mots au hasard. Blandine et moi avons beaucoup de choses en commun. Enfance, couple, relations avec nos mères respectives et bien d'autres sujets sont au programme de cette conversation que j'ai particulièrement aimé mener. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Blandine.
Bonjour Élise.
Bienvenue sur Prenons un café.
Merci, merci. Je suis très contente d'être avec toi.
Écoute, moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Bon, alors moi, c'est Blandine Lehoux. Je suis humoriste. J'ai 34 ans, deux enfants en bas âge de 3 ans et demi et 1 an et demi. Un mari depuis quelques années maintenant. En couple depuis presque 10 ans. Et un chien de 7 ans.
Ah ouais, il y a le combo quoi.
Ah ouais, ouais, donc le jardin et l'espace derrière et devant.
Écoute, ça viendra peut-être, je te le souhaite si c'est ce que tu souhaites.
C'est ce que je souhaite.
Cool. Il y a une question traditionnelle sur Prenons un café, donc ouais. Je vais te la poser. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ?
Non, pas toujours. Très honnêtement, pas toujours. En fait, je faisais un peu confiance à la vie, je savais que je me suis toujours laissée porter. C'est-à-dire que dans ma vie, genre, je me rappelle à vers 21 ans... Une fois, j'avais dit à ma grand-mère, tu sais, moi, je crois que j'aurais pas d'enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants et tout. Et elle m'avait dit, enfin, quand même, le but de la vie des êtres humains, c'est de se reproduire. J'avais dit, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais non. En fait, c'était pas une finalité. Mais quand j'ai rencontré mon mari, je me suis en tout cas dit, c'est sûr que, évidemment, si j'ai des enfants, c'est avec cette personne, quoi. Mmh. Mais c'est-à-dire que quand une femme, c'est pas pour faire genre, hein, mais quand une femme, elle me dit. J'ai pas envie d'enfant, genre ça changera jamais, j'ai envie de me faire ligaturer les trompes. C'est-à-dire que ça me choque pas une seconde, vraiment, parce que je peux comprendre, je peux même si je comprenais pas en vrai, je me taire, mais je comprends ce désir de ne pas avoir d'enfant, je comprends bien. Bah, surtout quand, en plus, même si t'en as envie au fond, mais avec la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, ça peut faire peur.
Ouais, carrément. Mm. Et puis maintenant que t'en as aussi, tu peux comprendre.
Maintenant que j'en ai, je me dis, putain, en fait, est-ce que ce serait pas... J'avais eu une bonne idée à l'époque.
Non, non, mais on les aime, c'est pas la question.
On les adore, mais... Non, mais c'est vrai, non, mais je comprends, bien sûr. Ouais, tu poses toujours cette question-là.
C'est toujours cette question que je te pose.
Ah, c'est marrant.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes qui se posent pas la question, tu vois. Bah, un peu comme ta grand-mère, tu vois. Ouais. Enfin, genre, c'est la suite logique de la vie et on le fait parce qu'il faut le faire presque. Enfin, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui ont ce feu, mais genre depuis tout petit, depuis enfant, et qui se sont toujours vus
parents. C'est drôle,
quoi.
Parce que ma fille, hier, m'a dit, moi, je veux être une maman. Ouais. Bien sûr, ma fille, c'est une petite maman. Et en fait, je sens, tu sais, il y a des enfants comme ça.
Ah, bah la mienne, elle est comme ça aussi.
Et bah elle, c'est en elle. Ouais. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bah si t'as envie d'être maman, tu seras maman. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Non. Une seconde de ma fille.
Mais la mienne, elle m'a demandé, maman, à partir de quel âge on peut être maman ?
Oh. Vraiment ? En vrai ? 35
en vrai. Écoute. parce qu'on lui dit, bah, être adulte, c'est genre avoir 18 ans. Donc elle dit, c'est à 18 ans qu'on peut avoir des enfants. Et je suis là, bah. Techniquement, ou tu pourrais.
Techniquement, tu peux en avoir à 13 ans, peut-être.
Mais est-ce que tu en auras envie ? Est-ce que ce sera le moment ? Je ne sais pas, mais c'est difficile de répondre à ces questions-là quand il y a des enfants. Et comment c'est venu alors dans ton histoire, dans ton couple, cette envie de premier enfant ?
En fait, on ne s'est jamais vraiment dit let's go, quoi. Tu vois, on ne s'est jamais dit. Je ne sais pas comment expliquer. Je crois que ça faisait longtemps qu'on s'aimait et qu'on était mariés et on s'est dit. On ne s'est jamais dit avec Mathieu, on fait un enfant. Mais on a laissé faire la vie. Et ça, la vie était un peu plus longue que pour d'autres. Et donc du coup, on a su que j'étais enceinte, on était très, très heureux. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on s'est jamais dit, on fait un enfant.
Ah oui.
C'est marrant. Hein, mais on savait, lui et moi, qu'on était en train d'essayer de faire des enfants. Hein, mais on s'est jamais dit, let's go. Au bout de 2 ans et demi, je suis tombée enceinte. Et du coup, quand j'ai annoncé ça à mon mari, comme on s'était... Pareil, on s'est jamais dit, dis donc, c'est long.
Ah ouais.
On s'est jamais dit ça parce que... comme, je sais pas pourquoi... parce qu'en fait, on n'avait pas acté le truc de... On est en train d'essayer... Je sais pas si les gens font ça, mais en tout cas, moi, on s'était jamais dit ça.
Moi, j'ai fait ça.
T'as fait comme moi ?
Non, j'ai fait viens, on fait un enfant. Mais tu sais, quand t'as une histoire de contraception à arrêter, c'est un truc, un peu une décision que tu fais ensemble.
Ouais, c'est ça, bien sûr. Moi, je n'avais pas...
Voilà.
Enfin, on fait...
Ouais. Voilà. Nous, ça a été ça. Ça a été, vas-y... Bah ouais, du coup.
Est-ce que j'arrête la pilule ?
Alors, moi, j'ai une histoire. Mon stérilet s'est fait la malle. Donc, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en remet un ou pas ? Bah non. Et en fait, à la seconde où, tu vois, moi, genre, attendre 2 ans et demi et ne pas me poser la question quoi. Mais moi, le premier mois, je me disais, mais oh, je suis enceinte, j'ai tous les symptômes. Alors que non, clairement, j'étais juste en SPM. Je pense que ça dépend vraiment de tellement de facteurs, en fait. Tu faisais quoi ? C'était quoi ton métier, ta vie à ce moment-là, toi ?
Ah ben j'étais comédienne déjà, je faisais du théâtre, mais ma vie elle tournait vachement autour de mon mari, de mon chien et moi. En fait j'ai toujours fait graviter ma vie à la maison au centre de ma vie tout court. Ça a toujours été comme ça. En fait ma vie de stand-upeuse gravite autour de ma vie de famille. C'est vraiment vraiment sincère. C'est-à-dire que tu vois là par exemple je te disais aujourd'hui. Comme je suis en tournée actuellement et que je vois pas beaucoup mes enfants, bon ce matin du coup j'étais en sortie scolaire, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Mais je suis en pleine tournée, je t'ai dit, si je peux rentrer vite, c'est cool parce qu'en fait comme ça je vais chercher mes enfants à l'école parce que je les vois pas beaucoup en ce moment, donc j'essaie de vivre des moments de qualité. C'est pas facile.
C'est ce que j'allais dire, ça doit pas être très simple parce que, enfin, dans l'imaginaire que j'en ai pour avoir vu un petit peu la vie du spectacle, c'est au moment où les gens sont en famille ou s'amusent, en fait. C'est des horaires particuliers.
Ouais.
C'est
les week-ends.
Ouais, c'est ça. Comment t'arrives à l'articuler, tout ça ?
C'est pas le truc le plus simple. En fait, quand ça se passe à Paris, ça va. En vrai, je suis avec mes enfants le samedi toute la journée. Et le soir, quand je vais jouer mon spectacle, c'est vrai que la journée, c'est hard. C'est-à-dire que je me dis, oh là là, tu sais, quand ils sont chiants, des trucs comme ça.
Tu vas pas leur donner trop d'énergie parce que t'as encore l'énergie à donner après.
Exactement. Mais en vrai, ça gère. J'ai la voix cassée, j'ai pas du tout cette voix-là à la base, c'est juste que j'ai des allergies. Et donc du coup, j'ai une voix hyper sensuelle, c'est pas du tout ma voix à la base. J'ai une voix de grosse bouffe à la base. quand c'est à Paris, ça se gère, parce qu'en fait c'est une question d'habitude. Mes enfants, ils ont l'habitude, parce que même si je joue pas mon spectacle tous les soirs, je suis en comédie club en général, donc les enfants, ils ont l'habitude de me voir partir au moment du repas et de leur faire un bisou, maman elle va au travail, ils ont complètement l'habitude, bisous maman. Machin, papa qui va coucher tout le monde. Ouais. Et tout ça, ils ont l'habitude. Là, la tournée, c'est un autre exercice. C'est vachement plus difficile, émotionnellement parlant. Parce qu'en plus, ça vient de commencer. Donc, en fait, j'ai pas le recul. Mais je sais que la semaine dernière, j'étais absente du mercredi au dimanche matin. Et moi, j'ai pas l'habitude de cette vie-là. J'ai pas du tout l'habitude. Alors, c'est marrant parce que je suis hyper partagée. Parce que quand je vais en province, je rencontre mon public... qui me suit depuis de nombreuses années, de nombreuses années maintenant. Et donc, c'est des rencontres, c'est magnifique. Parce que c'est vraiment l'essence de ma communauté que je rencontre. Parce que les billets, ils sont en vente depuis un an et que du coup, Donc ça me rend hyper heureuse. Et à côté de ça, je ne vois pas mes enfants. Et surtout, je culpabilise, quoi.
Ah ouais.
Mon petit, il a 1 an et demi. Ma petite a 3 ans et demi. Je culpabilise. J'essaye de faire... C'est pour ça. Je parlais avec une copine à moi, Amy, qui fait de la scène, qui fait toutes les premières parties de Redouane Bougueraba. Donc, en fait, elle est par Mons et par Vaud tout le temps. Et c'est une super maman. Et je lui disais, Amy, comment tu fais ? Parce que toi, t'as l'air de trop bien vivre cette vie de saltimbanque, quoi. Et elle est comme moi. C'est sa famille, c'est la base, en fait. Et même si, c'est la base. Chacun fait ce qu'il veut.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que nous, notre façon de vivre, c'est comme ça, quoi. Elle me dit, Blandine, je fais toutes les sorties scolaires. Je fais « Ok, c'est pour ça que je fais la sortie scolaire ce matin. » C'est parce qu'Amy, elle m'avait dit « Tu fais toutes les sorties scolaires. » Je fais « Ok. » Elle me dit « Tu vas aller chercher tous les jours à 16h30. » Je fais « Putain, Amy, j'ai des trucs à faire, moi. » Elle me dit « Ah bah, il faut ce qu'il faut. » Et elle me dit « Et les mercredis, tu les gardes. » Je fais « Oh putain, c'est l'enfer. » Alors que moi, pas du tout. Mais ma fille, mon fils, je vais le chercher à 17h à la crèche parce que j'ai quand même des journées de travail. Genre, à Paris, je ne tourne pas les pouces la journée. Et donc, le mercredi, donc, je me suis dit, attends, t'es une mère extraordinaire aussi. Donc, en vrai, quand j'ai des tournées comme ça, parce que j'ai eu quelques dates avant, mais là, la tournée, elle commence vraiment où toutes les semaines, là, je pars. Et bah, du coup, je vais. Quand je suis rentrée, j'ai récupéré ma fille à 11h30 la dernière fois et je ne l'ai pas mise l'après-midi. Mmh. Elle est en première section de maternelle.
Ouais, c'est ça. Fou, c'est... Tu vois.
Pareil, il faisait beau la semaine dernière, je ne sais plus quand. On a été faire un pique-nique au bois. Enfin, tu vois, on essaye de faire des trucs, quoi.
Ouais, carrément.
Voilà, c'est comme ça que je gère. Mmh. Mais bon, c'est pas facile.
T'as déjà pensé à les emmener avec toi ?
Ils sont trop petits.
Ouais.
Et surtout, ma tournée, c'est pas une assez grosse machine encore pour ça.
Ok.
Là, par exemple, je vais à Lyon, je pars mercredi la semaine prochaine. Je pars du mercredi au dimanche. Je vais à Lyon. Évidemment, je pourrais les amener. Je pourrais parce que je pourrais demander un Airbnb et tout. Mais en fait. Sur place, enfin, déjà ça veut dire que mon mari doit partir avec nous, donc ça veut dire que mon mari ne peut pas venir, enfin ne peut pas travailler, il peut pas faire de TT, enfin, donc c'est de télétravail. C'est pas les bonnes conditions en fait, c'est mon mari devrait se sacrifier encore, ça va pas. Donc si ma tournée c'était une grosse, si je faisais une tournée des Zéniths, enfin tu vois, évidemment qu'il peut y avoir une nounou, il peut, enfin tu vois, c'est, mais moi quand je suis sur scène le soir, il me faut quelqu'un, ça c'est sûr.
Mmh, oui.
Et la journée, et quand je me prépare, et ben il me faut, enfin. Non, je pourrais gérer. Quand je suis à la maison, je gère. Alors, je peux prendre ma douche et me maquiller devant avec mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est galère.
Ouais, mais ils ont leur repère à la maison.
Exactement. Et là, et puis surtout, c'est mon fils, il met toujours des couches. Donc tu vois, le déménagement, pas possible. Quand on part en week-end, déjà, c'est que du kiff. Putain, il faut remplir la bagnole. Là. Non, là, c'est tombé. Je pars pas pour. Et puis surtout, sur place, si c'est pour dépenser tous mes cachets sur place d'argent. Le but, c'est que je ramène de l'argent. C'est pas que sur place, on kiffe comme des malades et que, bah, on rentre.
Ouais,
on a fait tout ça pour. On s'est crevé la santé et on a dépensé tout la thune.
Ouais, carrément.
Ça sert à rien.
Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais le postpartum, il paraît que ça dure 3 ans.
Ouais, c'est vrai.
Toi, ça a l'air intense, tu vois. Comment tu le
c'est
dis
intense, C'est intense parce que mes petits sont rapprochés. Ouais, le postpartum, ça dure. Ouais, je pense. Ça,
c'est-à-dire que t'es sortie de ton premier postpartum, mais t'es encore dans le deuxième.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais en vrai, oui, je vois parce que le temps de te remettre et tout. En tout cas, moi, mon expérience, c'était pas 3 ans. Je pense pas que c'est 3 ans, mais c'est bien 2 ans.
Ouais. Ouais.
C'est bien 2 ans. Après, je pense qu'il y a des meufs, ça fait 6 mois. Hein.
Ouais.
Tu vois, enfin, c'est une...
Ouais, bien sûr.
Puis, et encore, en vrai, si on parle de tout, j'ai pas encore retrouvé mon corps. Mmh. Ouais, le postpartum, ça dure bien. Ça dure pas le temps.
C'est pas.
Je sais pas c'est quoi le temps officiel du postpartum.
Alors depuis quelques temps, bien c'est 3 ans la durée du postpartum, mais en fait on a tendance à penser que le postpartum c'est genre la période que tu passes à la maternité ou la période que t'es en congé mat, tu vois.
Ouais, c'est
et que
merde,
ça se devrait s'arrêter quand tu reprends le travail à 2 mois et demi, sauf qu'à 2 mois et demi, ben.
Ah non.
Non, déjà tu dors toujours pas. Enfin, il y a rien.
J'ai même pas envie d'en parler tellement 2 mois et demi, c'est de la merde.
Non.
Mais je parlais avec une maman là qui a accouché en août et moi j'étais en train de calculer. Je fais mais du coup t'as repris quand ? Elle me dit en novembre.
Oh là là.
Je fais mais quelle horreur ! Je dis mais quelle. Enfin en fait c'est hyper.
T'as plus le côté tu sais genre la hype des hormones du tout début où t'es un peu genre waouh je te rencontre mon bébé.
Bah bien sûr t'as plus.
Mais par contre t'as bien le contre-coup du sommeil et ce genre de choses et puis reprendre le travail alors que toi enfin.
Et puis ton bébé, il est nourrisson, 2 mois et demi.
C'est un bébé,
rien.
Il a même pas eu son premier trimestre là. Enfin.
Non mais 2 mois et demi c'est non. Rien. Hein, c'est abusé.
C'est complètement fou. Tu as un spectacle.
Ouais.
Qui s'appelle La vie de ta mère.
Ouais.
J'imagine. Dans le titre, bon, je dis j'imagine, mais je l'ai regardé le spectacle, donc je sais. Tu parles de ta vie de mère.
Ouais.
C'est ça qui t'a inspirée.
Je parle pas que ça, donc oui, mais évidemment, ça m'a énormément inspirée. Parce qu'en fait, en 2020, quand j'ai commencé à vraiment avoir une petite communauté sur les réseaux, c'est né de ma grossesse, en fait, où je racontais au quotidien. On était confinés, donc tout le monde était sur les téléphones. Et en fait, je racontais des choses et j'étais très surprise. Des réactions des mères.
Mmh.
Parce qu'en fait, elles me disaient « C'est trop ça !» Là, je te lisais un commentaire dans la tête. Ah, juste « Ah là là Mais moi aussi, c'était pareil. Je suis tellement... je suis trop contente de savoir que je suis pas seule. » Ok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un monde parallèle que j'ignorais puisque c'était la première grossesse. Je me suis amusée à raconter tout haut ce que je pensais tout bas.
Mmh.
Et en fait, ça fédérait. Je me suis dit, waouh, bah, si ça fédère comme ça, je vais vous raconter d'autres trucs. Hein. Et donc, du coup, ouais, ça m'a évidemment inspirée. Là, moi, peu importe ce que je vivrai dans ma vie, si je continue ma vie d'artiste, peut-être que je serai amenée à vivre des très, très grandes choses et tout. Mais l'aventure de ma vie, ça sera ma maternité pour toujours. La grossesse, en fait, tu sais, avant d'être maman, des fois, tu sais, quand t'as pas d'enfant, et que tu vois des femmes parler de leur grossesse avec nostalgie, 10 ans après, elles voient leur grand bébé qui a 10 ans, elles disent « Oh là là, t'étais dans mon ventre !» Toi, tu regardes ça un peu avec mépris, quoi. T'es là, tu te dis « Waouh, par contre, il faut évoluer, tu vois. » Tu te dis « Waouh, la pauvre meuf, elle a que ça dans sa vie. » Et puis un jour, toi, t'es enceinte. Et puis t'accouches, quoi. Bah, en fait, c'est peut-être même celles qui disent que c'est pas un truc de ouf qui sont anormales, parce que... Et c'est un truc de ouf dans tous les sens, c'est-à-dire dans le corps qui se transforme, dans les nausées qui duraient absolument 24 heures. Enfin, tu vois, dans absolument tout, c'était l'inconnu, quoi. Et, et j'ai eu la chance, j'ai vécu deux grossesses heureuses, pas de diabète gesta, pas d'alitement, pas de... j'ai pris 30 kilos. Ben voilà, ça, c'est mon petit truc à moi. Ah, trop bien, j'adore. Mais sinon, tu vois, merci mon Dieu, j'ai rien de grave, quoi. Et donc, du coup, mes grossesses, c'était du bonheur en barre, quoi. Ouais. En plus, j'étais confinée pendant ma première grossesse. C'est-à-dire, j'avais pas un enfant, moi, quand on est confinée. Moi, j'étais avec mon mari et mon chien, grosse, en train de faire des gâteaux et tous les manger, parce qu'on va y manger rien, ce bâtard. Mes grossesses et ma maternité, c'est l'aventure de ma vie.
Oui, il y avait un truc qui m'impressionnait quand j'étais enceinte et au tout début de ma maternité. Parce que moi, ma fille a 7 ans, si tu veux. Donc, j'ai l'impression d'être dans un autre...
T'es dans un autre gap, bien sûr.
Un autre monde.
Ouais.
Et moi, ce qui m'impressionnait, pas forcément du bon sens du terme, mais je ne comprenais pas qu'on me dise qu'on avait oublié ce que c'était d'avoir un bébé, ou ce que c'était d'accoucher, ou ce que c'était d'être enceinte. Je ne comprenais pas parce que je trouvais ça tellement...
Oui, c'est normal que tu comprennes.
Enfin, comment tu peux oublier ça?
Comment tu peux oublier ça? Les clous dans le ventre, comment tu peux oublier ça? Bien sûr,
comment
c'est
tu peux oublier ça? Et en même temps, aujourd'hui...
Bah oui.
Bah en fait, je comprends comment tu peux oublier, parce qu'il se passe tellement de choses après.
Bah, il se passe tellement de choses, et puis je pense aussi... la tête essaye d'oublier aussi des trucs. Par exemple, moi, les nausées, c'était un enfer. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, oh, ça va, c'était pas un truc. Alors qu'en fait, c'était horrible. Ouais. Tu vois, c'est pas les nausées qui m'empêchent de retomber enceinte, quoi. Tu vois, c'est pas ça. Tu vois, enfin, et je pense que c'est pour ça que, par exemple, les parents qui dorment pas, à moins d'un gros choc, tu sais, où l'enfant vraiment ne dort pas, vraiment zéro pendant les 3-4 premières années. Et souvent, eux, ils veulent pas d'enfants, d'autres enfants, et ils en ont pas. Hein. Les gens habituellement qui ont eu des enfants qui dormaient pas, ils en ont quand même refait derrière. Ouais. Parce qu'en fait, tu oublies.
Tu oublies ou tu dis que ça peut pas être pire.
Tu dis que ça peut pas être pire ou tu dis bah, peut-être que comme j'ai pas eu de chance là, peut-être que j'aurai de la chance.
Et ben moi, tu vois, à l'inverse, j'ai un enfant parce que je me dis j'ai eu trop de chance en fait. C'est sûr, je vais le payer.
Bah c'est moi, ma première, c'était ça.
Ouais.
Ma première, elle était douce, elle dormait. Et mon fils, c'est un petit fou, il dort pas. Donc ouais. Mais j'adore, mais c'est génial.
Mais justement, moi, je suis très curieuse et puis je sais que mes auditeurs et auditrices aussi de savoir. À quel moment tu dis... Enfin, pour toi, c'était clair que t'aurais plusieurs enfants?
Non, non, c'était pas clair. J'ai toujours, comme avec tout ce que je fais dans la vie, toujours laissé faire les choses. Laisser faire la vie, laisser faire les choses. Rien n'est jamais arrêté ou gravé dans le marbre. Si mon mari était plus à se dire qu'on en aurait qu'un.
Ah ouais?
Ouais, parce qu'en fait, il aimait trop ma fille.
Ah.
Et en fait, dans sa tête, c'était impossible... Pour lui, c'était une trahison envers Ellie, envers notre fille. Trahison envers elle. Jamais je pourrais aimer un autre enfant plus qu'Ellie. Voilà, enfin, et puis, on a déjà Josie, c'est notre chien. Je dirais pas, mais vraiment important dans notre vie. On a déjà Josie. On a un enfant. En gros, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Et en fait, il s'est rendu compte que son fils, en fait, il l'aimait autant qu'Ellie. Ouais. Il l'aime trop même, genre.
L'amour, ça se divise pas en fait.
Non,
ça se multiplie.
Ouais, c'est vraiment. Après, j'ai entendu là un truc qui m'a un peu étonnée d'une nana qui disait. On me disait l'amour, ça se multiplie, mais en fait, moi, quand j'ai eu mon deuxième, j'aimais que mon aîné. Et en fait, elle racontait ça et j'étais vraiment, j'ai même pas pu aller au bout.
Ouais.
J'avais mal au cœur parce qu'en plus, elle disait ça à visage découvert et je me suis dit, mais meuf, tu te rends pas compte que ça reste sur Internet ces trucs-là et qu'en fait, ton fils, peut-être dans 15 ans.
Il va
tomber
ça.
Sur ça et c'est horrible.
Ouais.
Et donc, après, je pense que la maternité, c'est pas la même pour tout le monde. C'est pas facile.
Non, non, puis en fonction de ce que tu as vécu, de ton passé, ton enfance, il y a plein de facteurs.
Mais je pense
font...
que vraiment, l'amour, ça se multiplie.
Ouais.
Et par exemple, je dirais à Mathieu, aujourd'hui, on fait un troisième, il va me sortir les mêmes arguments.
Ah ouais?
Il va me dire, mais non, mais j'aime trop nos deux enfants, j'aime trop notre vie comme ça, à 4 et demi avec Josie. Il dit à 5 en général, lui, mais j'aime trop notre vie comme ça, tu vois. Et en fait, on n'en aura pas d'autre, mais il en aurait un autre qui dirait ah, ben en fait, j'ai autant. Enfin, tu vois, c'est...
Ouais, carrément. Mais en même temps, c'est difficile de projeter un amour sur quelqu'un que tu connais pas, enfin qui n'existe pas,
ouais,
tu vois.
Bien sûr.
De se dire ben oui, c'est sûr, je vais l'aimer autant, en fait, t'en sais rien, comme tout comme tu savais pas ce que ça allait te faire quand t'allais avoir ton premier enfant, de cet amour-là, tu le connais pas.
Bah non, tu connais pas du
même
tout
si
cet amour-là.
Même si t'es en couple et que tu t'aimes très très
non,
fort,
non,
celui-là,
c'est pas
il
n'existe
pas. Enfin,
c'est pas cet amour-là, il n'existe pas. Oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, quand tu te le prends en pleine face, c'est vertigineux, ça fait presque peur.
Ouais. Mais je me rappelle, j'ai pas reçu une vague.
Ah moi non plus.
Oui, voilà, c'est qu'en fait, tout de suite, c'était ma petite chose, quoi, qu'il fallait que je protège. C'était ça plutôt ma façon de l'aimer. C'était un tout petit bébé. Et en fait, c'est comme s'il fallait que j'atterrisse un peu. Mm-hmm. Et en fait, je ne me suis pas vue l'aimer, ma fille.
Ouais. C'est venu en allant. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un, tu dois apprendre à te connaître. Puis tu deviens une personne aussi quand tu deviens maman.
Ouais.
Donc, il faut que tu apprennes toi à te connaître, à le connaître cet enfant. Et puis,
ouais, bien sûr.
Puis
à vous apprivoiser.
Les interactions ne sont pas.
Mais je l'aimais. Hein.
Ah oui.
C'est juste que j'ai. Tu sais, cette vague qui te submerge, parfois certaines racontent ça. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais je ne l'ai pas ressenti comme ça, peut-être parce que aussi j'ai commencé à l'aimer dans mon ventre. Tu vois. Ouais.
Ça a été progressif.
Ouais.
Tu savais que c'était une petite fille ?
Ouais, je savais que c'était une petite fille.
Ouais.
Persuadée au début de la grossesse que c'était un garçon. J'étais là, oh, c'est un garçon. Tu sais, je voulais trop faire ma Madame Irma. Là. Et en fait, la gynéco, quand elle m'a dit c'est une fille, j'étais presque déçue. Je me suis dit, ah, bah.
Je voulais avoir raison.
Ouais, je voulais un petit garçon qui allait ressembler à son père, puis j'ai une petite fille qui ressemble à son père.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit que c'était une fille ?
Bah, vraiment un petit peu de déception parce que j'étais sûre d'avoir un garçon, en fait. C'est une déception par rapport à ça.
Ouais.
J'étais, tu sais, quand tu dis bah, c'est un garçon, après, il va falloir annoncer à tout le monde que c'est une fille, en fait. C'est casse-couille. Mais non, et puis ma sœur, nous, on est deux filles. Ma sœur, elle a trois filles.
Ah.
Et donc, je trouvais ça trop génial d'avoir une fille, en fait. Tu vois, je me suis dit, ah, mais c'est trop cool, on perpétue la tradition. Ouais. Ma mère, elle est mariée avec un homme depuis des années. Cet homme est veuf à la base, donc du coup, sa fille a eu deux filles.
Ouais.
Et donc, elles appellent ma mère mamie.
Oui.
Donc, en fait, ça faisait vraiment un gang de filles parce qu'il y a les deux petites de Johanna, il y a les trois filles de ma sœur, il y a ma fille. Et je me disais, gang de girls, quoi. Girls. Et puis après, quand j'ai appris que j'avais mon fils, que j'attendais mon fils, et ben là, j'étais aussi trop fière parce que je me suis dit, ça va être le petit garçon.
Et puis,
ça va être
le petit chouchou. Ouais. Enfin, genre, toutes ces filles qui vont.
Toutes ces filles autour de lui, il adore. Et puis, il adore les nanas. Ouais. Du coup, il est trop mignon.
Ah, c'est chouette.
Ah, oui.
Et justement, est-ce que tu avais. Le fait d'avoir un de chaque, une fille et un garçon, c'était un truc important pour toi ou si tu
avais
une fille.
Rien à faire, bien sûr. Si j'avais eu deux filles, j'aurais adoré. Ça aurait continué le girls gang.
Ouais, carrément.
Comme absolument, je pense, 100% des mères. Tant que mes enfants sont en bonne santé, j'en ai rien à.
Ouais, mais il y a des gens à qui ça fait peur, tu vois, d'avoir genre un garçon parce que tu sais pas, tu vois. Genre, tu sais pas comment ça marche.
Bah oui, mais aussi dans ces cas-là, si tu t'arrêtes à des trucs comme ça, tu te dis ouais, mais j'ai peur d'avoir une fille parce que la société dans laquelle on vit.
Oui. Non, mais c'est un vrai sujet.
Et puis maintenant, des fois, j'ai peur. Et maintenant, j'ai peur pour mon fils parce que des fois, je vois dans la société dans laquelle on vit.
Ouais. Non, mais c'est clair. Bon, en fait, on pourrait tous trouver toutes les raisons possibles et imaginables d'avoir peur.
Exactement. Donc, non, moi, vraiment, ce qui m'obsède, c'est qu'ils aient confiance en eux. Ça, c'est vraiment un truc qui m'obsède. Et la santé. Je veux qu'ils aient confiance en eux et qu'ils soient en pleine santé toute leur vie. D'abord, la confiance. D'abord, la santé. Et ensuite, qu'ils aient confiance en eux parce que la confiance, ça change. Ça aide vachement dans la vie.
Ouais, carrément. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais que tu as commencé à parler de ta grossesse sur tes réseaux sociaux pendant le Covid et tout ça. Et qu'il y avait des femmes qui te disaient « Ah ouais, trop. Enfin, moi, c'est exactement ce que je vis. » C'est quand même assez fou. Enfin, moi, ça marque parce que je le reçois aussi qu'on parle tellement peu. Enfin, les gens parlent très peu entre eux. Par contre, quand des personnes prennent la parole sur les sujets un peu maternité, elles se reconnaissent, elles se sentent plus seules. Toi qui fais des spectacles, justement, dans ton auditorat, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes mamans ou de personnes en couple, qui se retrouvent en toi parce que toi, tu leur dis des choses que leurs amis, leur famille ne dit pas finalement.
Ouais.
Est-ce que tu ressens justement ce côté-là ? Enfin, t'as l'impression de leur d'illuminer un petit peu le chemin en disant un peu comme un moi aussi, tu vois ?
Ouais, je pense parce que des fois, moi, j'ai eu des témoignages qui m'ont vraiment bouleversée. Il y en a un qui m'a marqué de fou. Alors, j'en ai eu plein des comme ça, mais celui-là, il m'a marqué parce qu'il était empreint de sincérité. Vraiment, genre, en fait, j'ai joué mon spectacle et je sors. Et dans mon spectacle, je défonce pas mal mon mec, tu vois. Et donc, elle m'attend à la soirée. Elles m'attendent. Ces deux nanas, elles m'attendent. Et cette nana qui m'attend. Dans les deux, elle me dit « Ça s'est arrangé avec ton mec ?» Et je lui dis « Oh, bah, tu sais, c'est de l'humour. On a vécu en réalité, parce que je parle beaucoup de l'arrivée du deuxième. En fait, ça a été très difficile dans notre couple. Tout ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que ça a été très, très, très dur. Mais c'est de l'humour, c'est-à-dire que j'étire des choses. Et surtout, maintenant, mon fils, parce qu'il a eu des reflux, Sandro. Donc, du coup, c'est ça qui a été très difficile. Et le fait qu'il ne dorme toujours pas, mais bon, ça, c'est un détail dans sa vie, puisque le mec, je pense qu'il pense qu'il ne faut pas dormir la nuit. Je pense que c'est son délire. Mais on a décidé que c'était normal pour nous. Voilà, c'est notre nouvelle vie et c'est OK. Bien sûr, ça s'est arrangé. C'est juste que... Et elle me dit, j'ai l'impression que c'est Dieu qui m'envoie à ton spectacle. Parce que dans la voiture avec ma meilleure amie, juste avant, je lui ai dit que j'allais annoncer à mon mari que j'allais divorcer. Et en fait, on a eu un deuxième. Et ça, le bébé a 6 mois. C'est une catastrophe. Je le déteste. Enfin, elle me dit, je le reconnais pas. Il fait des différences entre nos enfants. Et blablabla, et blablabla. Elle a verbalisé le fait qu'elle allait divorcer, quoi, tu vois, avec à sa meilleure amie. Et je lui dis, mais en fait, ton bébé, il dort? Et elle me dit, non, machin, je fais mes meufs. Je lui dis, ton bébé, il a 6 mois. Genre, ne prends aucune décision tant que tu dors pas. Ton bébé, il a 6 mois. Ton mari, c'est pas des animaux comme nous. Enfin, tu sais, c'est pas. Nous, notre bébé, il naît, on l'aime, c'est comme ça, on est des mamans. Mmh. Un mec, c'est normal que des fois, ça soit un peu plus lent pour monter au cerveau. Bah, il préfère ton aîné, mais parce que souvent, les hommes, ils aiment bien l'interaction. Ils aiment bien, en vrai, moi, mon mari, il me dit, ah, en fait, j'adore cet âge-là. Mes enfants, là, ils ont 2, 3 ans et demi, 1 an et demi, c'est normal, là, il se passe des choses, tu vois. Et moi, je lui disais, c'est marrant, moi, j'adore quand ils sont bébés. Mmh. En fait, ils sont accro à moi, j'adore, tu vois, c'est des petits animaux. Et donc, je lui dis, mais meuf, ne prends aucune décision maintenant. Et après, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit que ça s'arrangeait avec son mec. Voilà, parce qu'évidemment, elle a laissé le temps passer et tout. Donc, ouais, je pense que ça aide. Et en plus, je pense que le fait que ça soit des gens extérieurs, vraiment extérieurs à toi, où tu as l'impression qu'ils ont vécu la même chose, et bien, quelque part, ça va plus te parler. Tu vois, si par exemple, demain, tu as une sœur qui te dit, elle te dit, non, mais moi aussi, j'ai fait ça, j'ai eu ça, ça finit par s'arranger et tout. Toi, tu vas te dire, je sais pas, inconsciemment, tu vas te dire, bah ouais, mais c'est normal, on est les mêmes. Oui, bah ça m'aide pas en fait, parce que alors que si c'est quelqu'un d'extérieur qui est pas censé entre guillemets vivre la même chose que toi, tu te dis ah mais cette personne elle a vécu la même chose que moi et ça s'est arrangé, ça veut dire que peut-être moi aussi ça va s'arranger.
Et puis il y a aussi ce truc, tu vois, cette nana qui te parle de son mec, tout ça, son mec tu le connais pas. Tu vois, quand à ton entourage c'est un peu compliqué parce que ben ils connaissent les personnes et donc ils ont un affect.
Peur, bien sûr.
Et t'as pas envie d'être jugé, t'as pas envie de
t'as pas envie qu'on juge ton mec.
Non. Enfin, voilà, parce qu'en fait en soi des problèmes de couple tout le monde en a. C'est drôle parce que ce matin j'ai enregistré un épisode sur le couple.
Oui, on a tous des problèmes de couple, c'est normal.
Ouais.
Qu'en fait les humains ils sont pas faits pour, on n'est pas fait pour vivre à deux en fait.
Et puis il y a aussi ce truc de on évolue tous en fait. Le jour où toi t'as rencontré ton mec, enfin t'es plus la même personne.
Et
parfois on est
vraiment
en même
évident.
Temps.
Oui.
Mais quand tu dors pas, tu le vois pas ça.
Non, quand tu dors pas, c'est difficile. Moi, je me rappelle des nuits où avec mon mari, on s'insultait en chuchotant. Mais on disait des grosses insultes, hein. Genre des mères enculées. C'est des trucs vraiment, mais genre vraiment des trucs que tu te dis pas en plein jour. Et on était là, et le lendemain, tu te dis, putain, je lui ai dit d'aller se faire enculer, quand même.
Mais d'ailleurs, il y a un sketch dans ton spectacle où tu chantes.
Ouais.
Je trouve ça très, très drôle.
Ah, c'est cool. Merci.
Où tu chantes un petit peu l'engueulade, comme ça, pour faire genre, on est encore en harmonie, très fort. Et c'est un peu le même délire, en fait.
Ouais, bien sûr.
Je suis en train de me demander si j'ai insulté mon mec en chuchotant, mais non.
Ah, mais la nuit, dans un monde parallèle.
Et puis, le temps est long. T'as le temps de t'insulter.
Ouais, c'est
puis t'as envie de le tuer. Enfin, t'as envie de.
Ah non, mais en fait, le truc, c'est que si par exemple, on a décidé que c'était ta nuit, que cette nuit, j'allais dormir, s'il te plaît, quand il hurle à la mort, putain de ta race, prends-le. Tu es en train de me réveiller.
Carrément. Et puis c'est ça, c'est quand tu le vois l'autre dormir, t'es là.
Ouais. C'est comme quand je vois mon chien dormir. Comment j'ai la haine sur elle. Mais toi, tu vis vraiment la best life. Tu manges, on te sort. Tu dors.
T'as des câlins.
Elle a des câlins.
On te demande rien.
Elle se fait défoncer par mon fils. Mais bon, c'est le prix à payer. Elle dort. Alors,
bah ouais, carrément.
Elle mérite.
C'était voulu, entre guillemets, d'avoir des enfants rapprochés.
Non, Sandro, il s'est immiscé dans notre vie par surprise.
Ah ouais.
Ouais. Non, c'était pas voulu. Et aujourd'hui, mon Dieu, comment je regrette pas. Oh, je te jure. Là, tu vois, on se disait avec Mathieu, parce que là, les petits-enfants qui sont à la classe d'Élie, donc elle est en première section, donc ils ont 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Et en fait, là, les mamans, elles commencent à accoucher de leur bébé, quoi, leur deuxième bébé, finalement. Et donc, et nous, en fait, notre bébé, il est là depuis 2 ans, quoi, notre deuxième bébé. Et en fait, c'est génial, c'est trop bien. Mais nous, on a trop de la chance, parce que je me dis, c'est comme des jumeaux. Mmh. Tu vois, ils sont collés tout le temps. Mon fils, quand il se réveille à 3 heures du matin, ma fille s'appelle Élie, et lui, il l'appelle Lily. Donc, il se réveille. Il est 3h du mat, je viens au-dessus de son lit et il me dit « Lily, Lily !» Et je lui dis, parce qu'il parle toujours, il parle hyper, hyper bizarrement. Et il me dit, Lily, Lily. Et je lui dis, non, Lily, là, elle dort, en fait. Tout le monde dort. Il n'y a que toi qui es réveillée. Et en fait, ils sont tout le temps... voilà, quand Ellie, on va chercher Sandro, elle est comme une folle. Quand Sandro, il va chercher Ellie, il est comme un fou. Enfin, c'est le soir. Enfin, c'est vraiment... Et rapprocher, c'est... J'ai une copine qui a des jumelles et elle me disait... Alors, c'est marrant, c'est fatigant, mais en fait, c'est facile.
Ouais.
Parce qu'en fait, elle me dit, quand tu as des jumeaux, tu ne joues pas avec tes jumeaux. Ils sont ensemble tout le temps. Et je dis, ah ouais, c'est vrai que moi, ça, je ne connais pas parce que moi, j'ai toujours été en tailleur à côté d'un tapis d'éveil.
Ouais.
J'ai toujours passé ma vie à jouer avec mes enfants encore. C'est chiant, d'ailleurs. Mauvaise habitude que je leur ai donnée.
Non, mais ça vient après.
Ok.
Expérience, vraiment.
Après, ils jouent tout seul.
Ouais.
Ah, ok.
L'indépendance, ça vient après.
Mais en tout cas, et là, des fois, il y a des moments où ils jouent ensemble, mais pas longtemps, parce qu'ils sont petits,
ils sont encore petits, ouais.
Mais ils ont des moments, voilà, où pendant 10 minutes, ils vont jouer ensemble. Et après, ils vont revenir me voir. Ouais. Hein, tu nous lis un livre. Hein, ok. Je souhaite à tous les gens de faire des enfants rapprochés.
Ouais.
Je te jure, c'est génial. C'est génial.
En fait, il y a aussi ce côté, et là, c'est parce que j'ai vu des copines qui, justement, qui ont cette configuration de première section maternelle, tu fais un deuxième enfant. En fait, l'enfant a eu vraiment le temps, le premier, de s'habituer à cette vie d'enfant unique.
Ouais.
Et à un moment, en fait, il arrive, enfin, tu vois ce que c'est un enfant à 3 ans et demi, il verbalise vachement, il y a plus de réflexion aussi qu'à 1 an et demi, 2 ans.
Bien sûr.
Et donc, du coup, ils se rendent bien compte de ce que ça veut dire d'avoir un frère ou une sœur, de partager ce temps, partager tes parents. Et la crise, elle est beaucoup
plus
forte.
Bien sûr.
Alors qu'un enfant qui est tout petit, qui accueille un petit frère ou une sœur, en fait, c'est très vite sa norme et il ne se rend pas compte.
Ah, mais Ellie, elle ne se souvient pas du tout de sa vie d'avant. Mais pas du tout. Quand je lui ai présenté son frère, bon, bah voilà. Après, on a géré. On a vraiment, quand on a eu Sandro, ça a été compliqué parce que justement, notre mission principale, c'était vraiment que Ellie n'est pas... Donc, tous les jours... Bon, nous, on fait des bébés en été, tout le temps. Donc, on était en juin, il faisait chaud. Tous les jours, on se consacrait, Mathieu et moi. Ça pouvait être juste... Je vais aller au restaurant avec elle. En plus, j'allaitais, mais je me disais qu'il faut trop que je le fasse, tu vois.
Ouais.
J'allais au restaurant avec elle le midi. Ensuite, le lendemain, papa, il allait à la cueillette avec elle. Ensuite, le surlendemain, on allait voir les canards. Enfin, tu vois, il y avait vraiment... Mais juste un moment.
Un petit moment.
Et ça a vraiment aidé à la transition. Parce que Ellie, à ce moment-là, ça aurait pu être difficile pour elle. Et elle a accepté son frère, mais comme une petite maman. Ouais.
Mais surtout, comme tu disais, c'était un bébé RGO, deuxième.
Ouais.
Donc ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de cris, des pleurs.
C'était horrible.
Et ça peut être déstabilisant aussi pour un.
Pour elle. Alors, par contre, ça a été déstabilisant.
Ouais.
Ah oui, ça a été une tempête dans sa vie. Parce que nous, on n'a que des routines de vie. Enfin, pas dans notre vie. On est un couple, donc la routine s'est installée, évidemment. Mais pour les enfants, leur vie, elle est carrée.
Ouais.
On se brosse les dents entre ça et ça. On va se coucher après avoir fait ça. C'est carré, mais parce que eux, c'est des repères, c'est hyper agréable pour eux. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand j'avais des repères, j'adorais.
Ouais.
Et donc, les petits, ils ont des repères de ouf. Et Ellie, évidemment, tout ça a été mis en branle, ça se dit, et donc du coup c'était difficile et puis en plus on déménageait et on n'avait pas encore l'appart et donc du coup on était chez ma mère, c'est-à-dire que deux semaines chez ma mère, j'ai accouché et je suis restée un mois encore. Donc c'était la torne, donc dans le couple c'était une horreur.
Le fait d'être
pas chez moi
pour
accueillir mon deuxième enfant, c'était horrible.
Non mais disons-le, ne faites pas ça.
Vous
n'avez pas le choix.
J'avais pas le choix.
Ouais. Donc, qu'est-ce qui est compliqué dans le fait d'accueillir un enfant pas chez toi?
En fait déjà la baraque de ma mère. Ma mère, elle est, c'est une femme accueillante, mais sa maison n'est pas du tout accueillante. C'est le bordel partout. C'est propre, mais c'est le bordel. C'est-à-dire qu'en fait nos chambres, à ma sœur et moi, sont des pièces de stockage avec des cartons. J'appelle ça des grands Tupperware, mais tu sais, les caisses de trucs où t'enquêtes.
J'ai l'impression que tu décris la maison de même.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand elle a su qu'on venait, elle a fait les lits, ça sentait trop bon. Chez ma mère, c'est super propre, mais elle est bordélique. Enfin, bordélique. Oui. Elle ne s'est pas séparée des choses.
Ouais.
Donc, en fait, elle accumule. Et donc, elle se retrouve avec des vêtements d'enfant de 9 ans, parce qu'on lui a donné. Et pour Ellie, dans 9 ans, elle met du 3 ans, laisse-la tranquille. On s'en fout. Et en fait, du coup, j'avais pas un seul tiroir pour mettre mes affaires. Donc, j'ai vécu pendant un mois et demi avec des valises. C'était horrible.
C'est difficile,
un souvenir horrible.
Ouais.
Horrible.
Tu peux pas faire terre-père. Enfin, non.
J'allais mon fils, il y avait mon beau-père. C'était horrible. J'avais pas l'intimité.
Et puis, c'est des gens qui n'ont plus d'enfants en bas âge à la maison. Et en vrai, ça change beaucoup de choses.
Non, mais c'était horrible. Genre, Ça, alors, encore une fois, tout va bien. Mes enfants, ils sont en pleine santé, donc c'est ça l'essentiel. Mais je suis triste d'avoir vécu, d'avoir accueilli mon enfant dans des conditions comme ça. Parce qu'en fait, j'aurais aimé vivre dans un cocon comme je vivais quand j'ai eu ma fille. Mmh. Et là, on était dans un cocon et c'était trop bien.
Ouais, vous étiez tous les trois ouais. avec le chien.
Et, ouais. et c'était trop bien.
Ouais.
Et là, là, c'était horrible.
Ouais, puis t'es pas chez toi, quoi.
J'étais pas chez moi.
Non.
C'était horrible.
Tu disais ça a un impact sur ton couple. Parce que toi, c'est ta mère. Mais du coup, ton mec, c'est pas sa mère, tu vois. T'as encore un seuil de tolérance, toi, qui peut être plus élevé.
J'ai aucun seuil de tolérance.
Non, ok, ok, ok.
Non, j'ai vraiment, avec ma mère... Non, mon mari est plus tolérant avec ma mère que moi, je suis tolérante avec ma mère.
Ah ouais.
Ah ouais, je suis intolérante avec elle. Mais parce qu'en fait, on est très similaires, mais on se ressemble pas du tout, en fait. C'est marrant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis extrêmement exigeante avec les gens. Enfin, je suis très exigeante avec moi-même. Mais on pourrait croire que non, sur des trucs qui me sont importants à moi. Tu vois, c'est des trucs bêtes, tu vois. Mais en fait, c'est pas grave si mes enfants, leur repas est pas prêt tous les soirs, voilà, alors que ma mère, c'est important. Mais par contre, je suis hyper exigeante sur des trucs. En fait, je saurais pas dire, mais je suis exigeante avec moi-même sur des choses, sur le travail, sur des trucs. Enfin, bref. Et donc, en fait, quand je vois quelqu'un qui est pas comme ça, sur des domaines où, pour moi, ça. En fait, je suis exigeante avec moi-même sur des trucs qui me semblent logiques.
Ouais.
Tu vois, des trucs. Et donc, si la personne en face, pour moi, elle met son seuil d'exigence faible à des endroits où pour moi c'est évident que ça doit être élevé, pour moi c'est insoutenable.
Ouais.
Et en fait, ma mère est illogique. Et donc, c'est horrible. Non, mais l'illogisme de cette personne, que j'adore, mais c'est un être illogique. Mm. Par exemple, elle n'accorde aucune importance aux choses sentimentales.
Mm.
Alors que moi, je ne mets aucune importance au matériel. Tu m'offres un sac Yves Saint Laurent, je ne vais pas le jeter par la fenêtre, tu vois. Mais en fait, c'est cool. Si tu m'offres un sac Yves Saint Laurent, c'est cool. Mais en fait, je préfère par exemple que tu m'offres un sac qu'une fois tu t'es souvenu il y a 2 ans que j'avais aimé ce sac et qu'en fait, que c'est pas Yves Saint Laurent.
Il coûte 10 balles, mais en fait, tu l'as kiffé.
Voilà. Ouais. Et en fait, ma mère, elle, n'attache aucune importance aux choses sentimentales au point où elle a perdu toutes les photos de mon enfance.
Oh merde.
Ouais. Mais toutes. C'est-à-dire, je n'ai pas de photos de moi, bébé, enfant, jusqu'à mes 13-14 ans. Et donc, je ne peux pas voir à qui ressemblent mes enfants.
Ouais.
Enfin, je vois. Et donc, c'est hyper frustrant.
Ouais, c'est dur.
Et en fait, elle, à chaque Noël, à chaque anniversaire, elle me dit : qu'est-ce que tu veux, ma fille ? Et je lui dis : les photos de moi petite. Et elle me dit : je ne sais pas où elles sont. T'es sûre que tu ne les as pas prises ? Je fais : non. Et je lui dis : mais si toi, tu les as perdues, maman, tu sais, tu pourrais me faire un kiff. Tu vas mettre plein d'énergie et tu vas aller chez ta mère, chez ton frère, chez ta sœur, chez tes cousins et tu vas me faire un album. Je fais, c'est ça normalement que tu devrais faire. Enfin, bref, on pourrait parler de ma mère pendant des heures. Mais en fait, et donc,
on pourra refaire un studio.
Mais en fait, tu vois, elle apporte aucune importance à des détails qui sont pour
moi. C'est important pour toi.
Mais essentiel, essentiel.
Ouais.
L'une des premières fêtes des mères de moi, mère, je veux la fêter chez elle parce que je trouve que c'est trop beau comme image, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est pas pour la photo Insta, c'est vraiment juste pour moi, quoi, tu vois. Elle invite toutes les voisines du quartier.
On a la même mère, vraiment.
Ah, c'est pas vrai.
Je te jure, on a la même mère.
C'est pas vrai, ma pauvre, ce que tu vis.
Je crois
que tu vois ce que je veux dire.
Ouais, oui, je vois.
C'est qu'en fait, toi que t'en es rien à foutre, franchement, c'est blessant, mais c'est OK. Mais que toi, tu te dises, j'ai même pas conscience de tes émotions, ma fille, et je vais aller à l'inverse de ce qui te ressemble. Ça, c'est pas possible.
Ouais, c'est chaud.
C'est chaud. Mais à côté de ça, pourquoi elle invite toutes les voisines du quartier ? Parce que c'est des femmes qui n'ont pas leurs enfants auprès d'elles.
Oui, non, mais il y a toujours.
Pour donner du...
Mais il y a beaucoup d'amour hein, dans ces comportements. Mais bien sûr.
Mais c'est folle.
Tu me dis si c'est ça aussi chez toi. Hein, mais c'est. En fait, c'est donner beaucoup d'amour dans l'extérieur et pas assez dans l'interne.
C'est exactement ça.
Et c'est se préoccuper de tout ce qu'il y a autour, mais pas de l'essentiel.
T'as tout dit. C'est exactement ça.
Et moi, j'ai grandi comme ça aussi. Hein.
Ah ouais, mais en fait, car ma mère, elle se pose en sauveuse.
Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça.
Elle, quel signe, ta mère ?
Poisson.
Ah, moi aussi, putain, mère, l'enfer, je suis poisson.
Mais ma fille, elle est poisson aussi.
Elle est quand ?
15 mars.
Et ta mère ?
19 mars.
Ah, moi, ma mère, le 6. Moi, le 6. Ma mère est cancer. En fait, elle a toujours voulu défendre la veuve et l'orphelin en oubliant que peut-être la veuve et l'orphelin étaient chez elle aussi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai toujours vu. Moi, quand je marche dans la rue, là où je vis, parce qu'on a toujours grandi, on a toujours été là-bas. Comment elle va, ta mère ? À chaque fois que je croise quelqu'un, elle va bien. Oh, quelle femme extraordinaire.
Tu sais que c'est pour ça que moi, je suis partie.
De
là où j'ai grandi.
C'est vrai ? T'en avais marre d'entendre ça ?
Ben, en fait, d'être la fille d'eux.
Ah ouais, moi, je suis la fille d'eux. à mort.
Sans être une star méga machin, c'est pas ça, non, mais t'es la fille de quelqu'un.
Non, ma mère, elle est maire adjointe. Elle a... Non, mais elle a un statut, quoi. Tu vois. Croque, Et donc, du coup, je comprends. Je comprends. Et d'ailleurs, moi, en fait, j'étais partie de la ville où je suis actuellement et j'y suis revenue. Et en fait, ça faisait partie du kiff de ma vie. C'était que personne ne me connaisse.
Ouais. Non, mais ma passion, de pouvoir être qui tu veux, de pouvoir dire ce que tu veux et qu'on ne te ramène pas sur « Oui, mais ta mère, elle m'a dit ça » ou « Ton père m'a dit ça ». Mais moi, mes parents étaient commerçants, donc tu vois, c'est...
Bah, c'est ça. Est-ce que ta mère... Alors, je ne sais pas si c'est pareil. Ma mère fait croire qu'elle garde mes enfants.
Non, je ne crois pas qu'elle fait ça.
Mais est-ce qu'elle garde tes enfants ? Elle garde ta fille ?
Très peu.
Voilà. Bah, moi, c'est une grande force qu'elle a. C'est que des fois, je la vois mytho. C'est-à-dire, je sais pas, en fait, c'est pas elle dit « je garde les enfants ». C'est qu'en fait, elle a un comportement comme si elle gardait mes enfants tous les week-ends. Tu vois. Et donc, et moi, des fois, je suis avec elle, je croise des gens, elle parle, et je la regarde et je me dis mais là, tu sais que je sais que tu mens. Est-ce que tu as conscience là que je te vois mentir là, maman ? Et elle continue sa petite vie et tout. La dernière fois, elle dit à ma fille, le week-end dernier, elle dit à ma fille, il faudrait quand même que tu viennes dormir ici. Hein. Et j'étais là.
Genre, c'est ta fille qui va faire sa valise et prendre la décision.
Et je dis, mais maman, on a toujours voulu que les enfants dorment ici. C'est pas eux de décider, c'est plus à toi de proposer en fait. Ils sont censés, d'après ma mère le week-end dernier, y dormir samedi soir. Mais elle ne nous a toujours pas parlé de ça.
Ah mince.
Tiens, comment elle est ?
Ouais. Non, mais je comprends. Moi, c'est avec les photos. Elle montre beaucoup de photos de ma fille.
Ah oui.
Genre, ma petite fille. Oui.
C'est ça, mais regarde-moi.
We're waiting. Après, bon, il y a la distance qu'il fait. Et,
à combien de temps ?
Un peu plus d'une heure.
Bon, ça va.
Non, ça va. Mais ma mère travaille et elle est commerçante. Donc, du coup,
elle est toujours, commerçante. Okay.
Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, en termes d'horaire, c'est pas pratique.
Oui, c'est pas pratique.
On attend la retraite.
C'est quand ?
Je sais pas, dans 4 ans, un truc comme
ça.
Bah
oui, parce qu'elle est commerçante, donc elle peut prendre sa retraite quand elle. Enfin,
non, il y a quand même un truc sur les années. Puis bon, elle est jeune, ma maman. Donc,
elle a quel âge ?
Elle vient d'avoir 60 ans.
Ah oui, elle est jeune. Elle taille super jeune.
À 25 ans.
Ah ouais. Bah, ma mère, elle a quel âge ? Elle est née en 61.
64, elle est née.
63.
Voilà. Ouais. Donc, il y a encore quelques temps. Après, bon, ça lui arrive quand même. Mais bon, ma mère. N'est pas la mère que je suis, si tu veux. Parce qu'il y a aussi ça, cette construction de la maternité presque en opposition de... Enfin, moi, je donne à ma fille ce que je n'ai pas reçu et ce que j'aurais voulu recevoir. Je ne sais pas si toi, tu fais ça aussi.
Ouais. Mais ma mère était... je dis souvent ça. C'est qu'en fait, ma mère, c'était une très, très bonne mère d'enfant. Moins une bonne mère d'ado et d'adulte. Ouais. Mais c'était une très, très bonne mère d'enfant. Elle était à toutes les sorties scolaires. Tu vois,
c'est vrai.
Et en fait, je crois que je ne fais pas ce que... Contrairement, et je pense que c'est hyper sain... de donner ce que t'as pas, ce qu'on t'a pas donné et tout et tout. Mais en fait, en vérité, comme en tant qu'enfant, j'ai reçu, je crois, exactement ce qu'il faut qu'un enfant reçoive. C'est-à-dire, elle m'a emmené visiter des musées, je partais en vacances, elle me faisait des câlins. Enfin, tu vois, genre, j'ai vraiment reçu de l'amour beaucoup en tant qu'enfant parce que ma mère adore les petits, en fait. Elle adore les enfants. Et elle est très aimante et les enfants sont attirés par ma mère. Et ma mère, elle aime les enfants, enfin, tu vois. Je crois que comme je suis complètement en accord avec la mère qu'elle était de moi en tant qu'enfant, ma maternité, elle est faite au feeling de ce que je suis et pas par rapport à... Mais par contre, peut-être que ça va évoluer à l'adolescence.
Ouais, peut-être. Mais parce que tu as eu la base, en fait. Je pense que c'est hyper important.
Hyper important.
D'avoir cette base-là.
Ouais.
Moi, je n'ai pas eu.
Ça me faisait penser à ça. Moi, tu me parles de sortie scolaire, je le fais aussi. Enfin, j'ai accompagné ma fille et sa classe à la piscine pendant tout le cycle l'année dernière quand elle était en grande section. Et en vrai, j'aime pas la piscine. Mais c'était chouette de l'avoir dans cet environnement-là. De faire connaissance aussi avec ses petits copains, de voir les autres enfants et tout ça. Et c'était chouette. J'aurais préféré que ce soit pas à la piscine, mais c'était chouette à faire. Après, c'est pareil pour les mercredis. J'aime bien être avec elle le mercredi parce que moi, j'étais au centre et j'étais aussi beaucoup chez mes grands-parents. Mais c'était très cool. Et je suis ravie d'avoir vécu ça avec mes grands-parents. Et en même temps, je me dis, elle vit pas ça avec ses grands-parents.
Ouais, je comprends.
Il y a ce truc-là. Bon, après, c'est des vies différentes aussi. Enfin, moi, j'ai grandi à la campagne.
Bien sûr.
C'est quand même pas la même chose. Il y a des trucs qu'on construit. En fait, je pense pas qu'il faille construire en totale opposition de ce que t'as reçu. Tu vois, c'est pas ça. Mais j'ai à cœur de donner des choses que j'ai pas eues. Ouais, carrément.
Par contre, moi aussi. Ah oui, non, mais moi aussi, bien sûr. Pareil. Non, mais pareil.
Qui ont manqué en tout cas,
ouais.
Mais des choses essentielles, pas c'est pas sur le parce que moi j'ai jamais manqué de matériel ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai grandi dans une famille quand même plutôt plutôt.
Oui, c'était cool. Quoi.
Ouais, c'était cool. Donc, c'est pas une question de matériel, mais vraiment dans la relation. Pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Bah, c'est
en
le
fait.
Plus important, ouais. Sans. Ah, bah, évidemment.
Je pense qu'il sait pas, on s'en fiche qu'elle soit tirée à quatre épingles et habillée dans.
Bien
enfin,
sûr.
Peu importe.
Ah bah, oui.
Mais la relation, ah, oui, elle est compte, trop primordiale.
Ça.
Mais que ce soit dans le couple aussi. C'est pas juste dans le.
Bien sûr.
Dans le couple, c'est important, mais même en amitié,
même
pour moi.
Même l'image que tu renvoies ouais. De ton couple, de comment. Ton mari te parle devant tes enfants, comment toi tu parles à ton mari devant tes enfants. Mais c'est, après, c'est hyper difficile.
Ah bah
c'est,
bah, puis il y a des périodes de la vie où, en fait, en vrai, quand tu dors pas, comme ce qu'on disait, et que tu t'insultes en chuchotant la nuit, c'est pas des périodes propices à la vraie discussion bah, et au vrai échange. Vous êtes enfin.
Des colocs.
Ouais, c'est ça. Tu reviens couple après. Enfin, ah ouais, en tout cas, moi, je suis redevenue couple après. Enfin, il y a vraiment ce truc de chaque chose en son temps et qu'il y a vraiment un temps pour tout.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est intéressant. Et j'aimais bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu articules ton métier autour de ta vie de famille.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'aime bien ce message de montrer qu'en fait, on peut faire n'importe quel métier qui nous plaît. En fait, peu importe, on peut. Enfin, il y a toujours une articulation possible. Il y a pas de métier incompatible avec ta vie de famille.
Non, c'est sûr. Mais après, je pense que il y a des métiers où tu as moins le choix. Quand les gens bah, ils sont ouvriers ou,
ouais.
Et qu'en fait, ils ont boucler les fins de mois, c'est compliqué. Et bah, ils ont moins le choix que nous. Moi, j'ai juste à... Tu vois, parce que je considère que les gens qui gagnent 1 200 € par mois, c'est quand même genre inacceptable que le SMIC en France, ça soit ça. Je trouve ça vraiment inacceptable. Genre, je ne sais pas comment les gens font. Enfin, si, je sais, ils vivent très, 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 très mal. Ouais. Voilà. Moi, aujourd'hui, là, ça va assez bien. C'est pas la folie, mais disons que j'envisage peut-être de partir en vacances cet été. Donc, ça veut dire quand même que, bon, bah, le loyer est payé, il y a de la bouffe dans le frigo et que peut-être on va pouvoir se faire le kiff de partir en vacances. Et bah, ce que je fais, c'est que je dois juste, je peux refuser un plan ou deux. Alors, ouais, je vais pas gagner de l'argent sur ce plan ou sur celui-ci, mais parce qu'en fait, je vais prioriser. Mais je pense que malheureusement, les gens qui gagnent 1 200 € par mois, le jour où qui sont femmes de ménage ou des trucs comme ça, ou même autre chose. Mais, et on leur dit, voilà, tu travailles du mardi au samedi, ils acceptent. Et puis, le dimanche, en décembre, tu vas travailler aussi. Et mais tu vas être payé double, ils acceptent parce qu'il faut faire les cadeaux de Noël à leurs enfants. Et en fait, c'est toujours eux qui sont les victimes de ça. Parce qu'en vrai, ils sont beaucoup plus nombreux que les gens qui s'en sortent.
Hein. Ouais, carrément. Et en fait, c'est... assez scandaleux finalement que ton équilibre familial soit un luxe.
Ouais, bah c'est t'as tout dit là.
C'est ça en fait.
Carrément. L'équilibre familial est un luxe.
Parce que ils sont pas assez payés parce qu'ils gagnent pas assez d'argent.
Ouais, parce que là tu vois avec Mathieu et on parlait de ça et tout. Il y a 3 jours, je me rends compte qu'en fait on parle de ouf parce que dans ton podcast. Parce que depuis tout à l'heure je dis on parlait de ça, mais on parlait de ça genre là il y a quelques jours. Et en fait Mathieu il me disait parce qu'il a monté sa boîte, il y a des mois où il prend un petit billet parce qu'il est en construction et il a plus de chômage donc c'est soit il a son petit billet de sa boîte qu'il a créé, soit des fois il se paye pas pendant 2-3 mois, tu vois. Mais c'est vrai que des fois du coup quand il sort de l'argent il va prendre les gens ils se détestent qu'on parle d'argent, moi je m'en fous, j'en ai rien à faire. Mais par exemple c'est vrai qu'il y a un mois il va prendre genre 3 000, mais pendant 2 mois qui suivent il y a zéro
ouais.
Tu vois. Donc en vrai, en 3 mois, il a gagné 1 000 € par mois, tu vois. Ou peut-être des fois 4 000, ça arrive. Mais je veux dire, il ne gagne pas, c'est encore vachement compliqué. Mais c'est la boîte qu'il a créée, normalement, ça va être de mieux en mieux. C'est normal, c'est ça, vertueux.
Un temps de serrage de ceinture nécessaire.
Mais bien sûr, il n'y a aucun problème avec ça. Ça va, on est en accord avec ça. Nous, ça ne nous dérange pas. Mmh. Franchement, l'intérieur, on s'en fout un peu. Et donc, du coup, Mathieu, il me disait, mais là, si on me propose un taf, on me garantit 3 000 balles par mois, mais que je dois travailler du lundi au vendredi jusqu'à 18h. Il me dit, je refuse. Et je lui dis, mais t'es un ouf, toi. Et il me dit, non, mais je refuse. Pas pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. De temps en temps, pas pouvoir me faire... Parce que Mathieu, il arrive... lui, ce qui est le plus important, c'est d'aller chercher ses enfants à l'école. Pour lui, c'est vraiment essentiel. De temps en temps, de pouvoir, dans la journée, s'il a pas, il va se faire un tennis avec un pote, tu vois, parce qu'il est inscrit au tennis. Donc, en fait, c'est pas vraiment un pote, c'est un mec du tennis,
tu vois.
Ils ont des applis où
C'est le Tinder du tennis.
Voilà, c'est le Tinder du tennis, exactement. Tu vois, genre, s'il est 9h un lundi et qu'il sait qu'à 11h, il a un trou, il peut aller et il va faire un tennis à 11h, tu vois.
Ouais, c'est chouette.
Et c'est vachement bien fait. Et en fait, il me dit, mais moi, je préfère qu'on gagne moins toute notre vie, vivre l'enfance de nos enfants et tout. Ouais. Mais parce qu'en fait, on peut se permettre.
Mais
parce
c'est
que,
ça, ce que j'allais dire, c'est que. Parce que je comprends tellement, bah, moi j'ai monté ma boîte. Hein, donc, la question de je me paye ou je me paye pas, je les connais bien. Et mon mec avait sa boîte aussi. Et il a repris un taf salarié il y a pas très longtemps, mais parce qu'il est dans une boîte qui offre cette liberté-là. Mmh. Elles sont très très rares, mais elles existent, comme quoi il y a de l'espoir. Et qui offre cette liberté-là de. Ben, c'est lui qui va chercher notre fille. Tous les jours à l'école.
Génial.
Enfin, si elle est malade, ben en fait c'est pas un problème, c'est lui qui gère. Enfin voilà, parce que ben déjà il kiffe. Genre là mardi il y avait grève à l'école, il a posé un jour. Enfin il a et mais genre le lundi soir pour le mardi. Enfin je veux dire c'est pas un problème.
Ouais.
Mais s'il y avait pas eu cette flexibilité là, il aurait jamais pris un job salarié, tu vois.
Ouais bah voilà, oui bien sûr je comprends.
Et on gagne moins d'argent
lui,
avant.
Bah voilà, mais parce qu'en fait lui son kiff c'est ouais. C'est sa famille.
Ça peut basculer. Et puis, moi, j'ai grandi avec des parents qui travaillaient beaucoup. Et en vrai, c'est chouette. Hein, c'est chouette, c'est génial, l'argent. Mais en fait, s'il n'y a pas l'essentiel, ça ne sert à rien.
Ça sert à rien. Et c'est comme ça que ma mère, justement, c'est le moment où je trouve qu'elle a un peu raté dans son éducation. Et ce n'est pas de sa faute.
Non.
Et parce que ma mère, elle a beaucoup manqué quand elle était petite d'argent. Et donc, ma mère, elle a toujours j'ai toujours vu charbonner. C'était très bien, elle avait un métier difficile et tout, pour un salaire de merde. Et en fait, bah, elle a tellement travaillé et elle a tellement été maligne qu'en fait, elle a investi au bon moment, dans des bons trucs. Et en fait, ça fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a une vie cool.
Ouais.
Mais vraiment, mais c'est le charbon. Hein. C'est vraiment, elle a travaillé toute sa vie. Et comme une acharnée, à l'adolescence, quand elle avait bien réussi à faire ses trucs et tout, elle a commencé à m'offrir sa présence. Mais en fait, je lui disais, maman, viens, on va faire les magasins. Elle me dit, moi, j'aime pas les magasins, tiens 100 euros. Tu vois. Et en fait, du coup, j'ai jamais vécu. C'est des trucs mais bêtes et qui, en vrai, sont pas importants. Enfin, sont pas intéressants. Mais en vrai, c'est important. C'est qu'en fait, elle m'a jamais, par exemple, jamais fait les magasins avec ma mère.
Ouais.
J'ai jamais. Ma mère, pour te dire, bah, elle aime tellement pas les magasins que quand j'ai essayé mes robes de mariée, elle est même pas venue.
Ah oui.
Tu vois, genre, elle aime parce que pour elle, genre, c'est faire les magasins, je déteste. Tu vois. Et donc, en fait, on n'a jamais vécu des moments. Tu vois, mais par contre, à l'adolescence, donc en fait. Elle a un peu acheté mon amour, parce que je ne peux pas pousser, tu vois.
Ouais, mais en fait, toi, t'aurais voulu faire les boutiques avec elle, quitte à rien acheter à la fin, on s'en fiche, c'était le moment qui comptait.
C'était ça, exactement.
C'était
et c'est ça qu'il va falloir que je gère, mais je le gérerai, tu vois.
Mais oui, mais je pense que...
Parce que moi, je suis centrée sur ça, sur les moments, et pas sur le montant des cadeaux.
Il faut un juste milieu, tu vois. Parce qu'on peut se le permettre, et t'as raison de... Moi, je trouve ça toujours important de penser aussi hors... Hors cercle, tu vois. Hors ce qu'on connaît, hors l'environnement dans lequel on vit. Parce que ce qu'on dit là, les personnes qui gagnent justement 1200 euros par mois, en fait, ils ont envie de dire peut-être que ça ne fait pas le bonheur, hein, l'argent, mais en attendant, on aimerait bien manger correctement, tu vois.
Ah non, mais bien sûr.
Non, mais tu vois, il y a vraiment
deux poids, deux mesures. C'est marrant, mais en fait, ça, c'est des problèmes de merde, en vrai, quand tu penses. Mais oui, évidemment, la meuf qui gagne 1200 euros par mois, qui a trois enfants à charge toute seule. Elle aimerait bien dire à sa fille, tiens, 100 euros, va aller faire les magasins.
Ouais. Non, mais c'est vrai.
Plutôt que de l'accompagner et de rien pouvoir acheter, évidemment. Mais
et puis surtout qu'elle n'a probablement pas le temps non plus parce qu'elle doit travailler.
Bien
en plus.
Sûr, bien sûr.
C'est complètement inacceptable. Et puis ces gens-là, en plus, on leur retire de plus en plus de droits. Et ça, c'est encore un autre sujet.
Non, mais en fait, tant qu'on n'augmente pas ce putain de SMIC, tant qu'on ne se rend pas compte qu'avec 1200 euros, peu importe où tu vis, c'est de la merde. Ouais.
Et c'est de pire en pire surtout. Enfin, c'est que si tu fais tes courses, tu as bien remarqué que ton panier moyen, il a quand même bien augmenté.
Non, mais vraiment, je ne sais pas comment les gens font.
Non.
Je ne sais pas comment les gens font. Moi, j'ai vécu une période un peu hyper difficile financièrement dans ma vie de maman, là. Enfin, il y a quelques années. Et en fait, je me disais, mais waouh, c'est ça que... Parce que moi, je voyais la lumière au bout du tunnel. Ouais. Je savais qu'un jour, ça allait aller. Mais je me disais, mais waouh, ceux qui... Femmes de ménage, les gens qui galèrent, quoi, les ouvriers, les trucs. Je me dis, eux, ils voient pas la lumière au bout du tunnel. Non. Ils se disent juste...
C'est ma vie pour toujours.
Ouais, c'est ma vie pour toujours. Et c'est ça. Et en fait, moi, c'est ça qui me faisait tenir. Je me disais, ouais, mais bon, là, je galère. Là, je galère de ouf, mais en fait, un jour, ça ira. Et c'est ça qui me faisait bien tenir.
Carrément. Ah là là. Et on a parlé de absolument à peu près tous les sujets de la Terre. C'est génial. J'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Et tu vois, ça fait une heure qu'on y est et on va presque tenir notre timing parce que je sais que c'est important pour toi d'aller chercher tes enfants. On va revenir sur ton spectacle hein, quand même parce qu'on va en parler. Est-ce que tu peux nous donner, là, tu dis que tu étais en tournée. Est-ce que tu as une idée de quelques dates? Je sais que tu viens à Lille et ça, c'est important parce que j'ai quand même une grande audience lilloise.
Ah, trop stylé.
Bah ouais, tu viens
à
Lille.
Je reste vraiment pas beaucoup de place à Lille en plus. Je viens le 1er juin, je vais à Lille. Enfin, il reste de la place à Lille le 1er juin. Je viens la veille aussi, mais c'est complet. Je peux te dire que je vais à Bruxelles le 3 mai, mais c'est complet.
Succès!
Je vais à Toulouse le 25-26 avril, mais c'est complet. 18 et 19 avril à Marseille, mais c'est complet. Lyon, c'est complet.
Et on peut venir te voir à Paris.
Et je joue à Paris. Ouais, donc Lille, je crois que... Je ne sais pas si c'est complet, Lille, encore. Nantes, Rennes, tout est complet. j'ai des dates à la fin de l'année, sinon, ouais. À Vermès. Et sinon, je fais une date exceptionnelle le 4 juin à Paris. C'est dans une grande salle à l'Européen.
On peut toujours les acheter, des places.
Ouais, mais il reste vraiment peu de places.
Dépêchez-vous.
Il reste genre 50 places.
Oh.
Ouais, c'est cool.
Ah, c'est trop bien, mais ouais, c'est trop cool. Ouais, ça marche bien. T'es contente, ouais.
Ouais, ouais, ça se passe bien. Je suis contente, mais... je prends rien pour acquis. Alors du coup, en fait, j'arrive pas à me... Je suis jamais là, « Wow, trop bien !» Jamais, parce qu'en fait, je me dis, « Ouais, mais la suite, c'est quoi ?» Parce que la suite, c'est là où je vais me foirer. Donc là, en fait, je savoure l'instant présent, mais c'est pas non plus une fin en soi. Voilà, comme Kylian Mbappé, le lendemain de la Coupe du Monde, il disait, « Oui, bon, ça, c'est bien, mais maintenant... » Je me disais, « Putain, bon, t'as été de winner de ouf !» Et en fait, moi, je me dis pareil.
Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il y a toujours... Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où on se dit... Voilà, j'y suis, je vais pas aller plus loin, je vais pas aller plus haut. Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe un step, t'as envie d'aller plus loin.
Le truc, c'est quoi ? Le max, c'est tu fais la tournée des Zéniths. Ça, c'est le max. Et en fait, bon, c'est super cool. Mais en vrai, c'est super bien.
Ouais. Mais est-ce que ça t'intéresse ?
Pour l'instant, j'ai peur.
Non, mais en vrai, tu vois, il y a une vraie question là-dessus. Hein, mais c'est la notion de succès, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois?
Bah en fait c'est ça, en fait
ça veut dire quoi pour toi, j'ai réussi? Si c'est
non mais en fait, je crois que ça, en fait c'est pour ça que je suis jamais vraiment méga enjouée. Enfin c'est pas que je suis pas enjouée, je suis trop contente. En fait je suis contente de rencontrer mon public, tu vois, mais qu'il soit 20 ou qu'il soit 100 ou qu'il soit 400, c'est, je m'en fous, je rencontre mon public, tu vois. Non mais en fait le truc c'est que c'est pas ça qui me fait faire enfin c'est pas de me dire waouh t'as fait complet là qui me rend heureuse. Parce c'est qu'en réalité, moi, dans ma tête, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est des rendez-vous.
Ouais. C'est les rencontres et les interactions qui sont intéressantes.
Mais c'est ça, moi, je suis trop heureuse. Par exemple, demain, je vais à Bordeaux. Je suis trop heureuse de rencontrer mon public bordelais.
Ouais.
Mais en fait, je ne vais pas te... Enfin, je ne sais pas comment expliquer.
Ah, mais moi,
c'est pas
mais
le
moi,
remplissage
ça...
de la salle. Tu vois, c'est vraiment... Je suis juste trop contente de les rencontrer, eux.
Ouais. Donc, et je vois exactement ce que tu veux dire.
Voilà. Donc, je ne serai jamais... Je ne sais pas si je serai hystérique un jour... de remplir des salles et tout, machin, je m'en fous parce que... Et puis surtout, pour moi, remplir des salles, c'est trop bien. Mmh. Franchement, c'est trop bien parce que tu rencontres ton public et tout. Mais ça y est, t'as sauvé personne, en fait. Ouais. Non, mais tiens, t'as sauvé la vie de personne. Hein. Ouais. Vraiment, faut se détendre, c'est rien. Enfin, c'est... Oui, c'est un peu exceptionnel pour le commun des mortels, mais c'est pas non plus...
C'est ton taf aussi.
Bah ouais, et puis surtout, y a rien... T'as sauvé personne. Hein.
Ouais.
Donc
c'est
cool.
Est-ce que tu crois ?
Non mais c'est trop cool.
T'as fait rire des gens.
Non mais en vrai, je te dis, en vrai, ça qui est fou, c'est que moi, je suis trop heureuse de rencontrer mon public.
Ouais, c'est ça. La rencontre.
Je suis trop contente de ça. Demain, je te dis, je suis excitée à l'idée de rencontrer mon public bordelais.
Trop bien. Eh ben écoute, on est excité de te voir à Lille et puis à Paris aussi le 4 juin.
Ouais.
Mais merci beaucoup, c'était trop bien.
Merci à toi, Elise.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Cet épisode t'a plu ? Parle-en à tes amis et partage-le sur Instagram en me taguant @elise_prenonsuncafé. Ça reste le moyen le plus efficace pour faire grandir ce podcast. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section « Avis ». Par exemple, le 27 septembre, Mathilde Dupe écrivait « Tellement magique d'entendre les mots et les réponses aux questions que je me pose sur certains sujets depuis que je suis maman. Ça devrait être pris en charge par la Sécu, tellement ça fait du bien, tellement ça rassure et tellement ça apaise. » Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, Mathilde, pour le temps passé à écrire ce message et les mots choisis, car ils me touchent énormément. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.